Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Ecstasy and Me, c'est le titre de la folle autobiographie d'Eddie Lamar. Une autobiographie très personnelle, bien que l'actrice ait dit qu'elle avait été écrite par quelqu'un d'autre, et assez crue, parue aux États-Unis en 1966, et qui vient enfin d'être publiée en France aux éditions Séguier, dans laquelle l'actrice évoque son enfance autrichienne, le scandale du film Extase en 1933, où elle apparaît nue à l'écran et qui la propulse à Hollywood, sa carrière en demi-teinte, ses 6 mariages et 6 divorces, et ses nombreuses frasques sexuelles. Une des plus belles actrices de l'âge d'or hollywoodien, mais aussi une inventrice majeure, un peu oubliée, que vous nous racontez, mon cher Antoine, dans votre histoire de cinéma.
Alors effectivement, le paradoxe d'Eddie Lamar, c'est qu'elle avait une intelligence prodigieuse, elle a joué avec les plus grands acteurs de son temps, et pourtant, elle n'avait laissé qu'une trace relativement floue dans l'histoire d'Hollywood. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que bien que la plupart des gens soient incapables de citer l'un de ses films, Eddie Lamar est aujourd'hui une sorte d'icône, et à mon avis, ça s'explique par trois raisons. Premièrement, comme vous l'avez dit, elle était une femme d'une beauté inouïe. Deuxièmement, elle avait, comme vous l'avez dit aussi, une réputation sulfureuse du fait qu'elle avait tourné nue dans Extase. Et troisièmement, elle avait une intelligence prodigieuse. En effet, elle avait conduit, avec son ami le musicien Georges Anteil, à inventer un dispositif de guidage des torpilles qui préfigurait en quelque sorte le GPS et le Wi-Fi. Et donc, il n'en faut pas plus pour remettre à la mode une actrice dont la filmographie, assez abondante, une trentaine de films, ne compte en réalité aucun rôle ayant durablement impressionné les foules, mais qui bénéficie de la mode du glamour et qui parvient, 18 ans après sa mort, à s'imposer auprès de jeunes générations. Alors ce qui était extraordinaire, c'est que du coup elle devient une sorte de symbole de l'âge d'or d'Hollywood auprès de jeunes générations qui ne connaissent pas ou peu les vraies grandes actrices qui ont fait cet âge d'or, comme Greta Garbo, Katharine Hepburn, Bette Davis ou Barbara Stanwyck. Mais donc, surfant sur cette vague, l'éditeur Séguier a traduit et édité l'autobiographie de 66, qui effectivement n'a pas été réellement écrite par l'actrice, mais qui a été manifestement dictée par celle-ci à deux journalistes qui n'ont pas lésiné sur le scandale pour assurer un succès éditorial. Alors le livre nous raconte tout sur la manière dont Eddie Lamar a fait sa carrière, et notamment dès le départ, on nous dit qu'elle aurait été trompée par Gustave Machatti, le réalisateur d'Extase, qui lui aurait dit que la scène de nudité ne serait filmé que de très loin, et qu'il aurait même piqué avec une épingle à nourrice pendant un gros plan pour aboutir à ce qui va devenir à l'écran la première scène de plaisir féminin, bien avant Jeanne Moreau dans Les Amants. Le livre raconte aussi comment, pendant sa jeunesse autrichienne, elle fut l'épouse d'un marchand de canons qui la couvrait de cadeaux et lui faisait rencontrer Hitler et Mussolini avant qu'elle ne décide, on la comprend, de lui échapper dans une fuite rocambolesque, puis de s'imposer auprès du patron de la MGM, Louis B. Mayer, qui faisait alors une tournée en Europe pour découvrir de jeunes talents. Il avait fait d'ailleurs ce genre de tournée 10 ans plus tôt, lorsqu'il avait ramené à Hollywood Greta Garbo. Mais entre-temps, le cinéma était devenu parlant, et Eddie Kistler, rebaptisé Eddie Lamar, ne put jamais se défaire d'un accent autrichien à couper au couteau. Le livre est très centré sur la vie sexuelle d'Eddie Lamar, et de manière assez bizarre, passe totalement sous silence les fameuses expériences scientifiques. En revanche, c'est un document intéressant sur la manière dont les studios étaient tout puissants et manipulaient tous ceux qui tombaient en leur pouvoir. Dans le livre, Eddie Lamar insiste sur le manque de discernement de ses choix professionnels. Alors elle raconte par exemple comment elle a refusé de tourner Casablanca, mais a accepté de jouer dans Les Conspirateurs, un film qui fut tourné avec la même équipe, à l'exception quand même du réalisateur Michael Curtiz et des deux stars Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, et qui du coup fut un échec total, lui.
Un manque de flair quand même assez...
En même temps, si vous voulez, dans Les Conspirateurs, vous dites, voilà, le truc, c'est un manque de flair, mais déjà à partir du moment où aurait eu Eddie Lamar dans Casablanca, il n'y aurait pas eu Ingrid Bergman. Et il n'est pas impossible que le film, du coup, ait été peut-être moins bon. Dans son livre, Lamar se présente comme une bonne actrice, pourtant, alors que la rumeur générale à Hollywood, hein, et tout le monde le disait, est qu'elle était la plus belle femme du monde, mais une actrice assez médiocre. La vérité, c'est qu'Eddie Lamar a développé trop tardivement ses capacités d'actrice. Elle laissait la beauté, sa beauté compenser l'inertie de son jeu. Et puis, elle sous-estimait aussi un peu les ravages que causait son mauvais caractère. Alors, ses films les plus mémorables ont été produits par d'autres studios que le studio qu'il avait embauché, la MGM, parce que ces studios peut-être un peu plus alternatifs avaient compris qu'il y avait quand même un atout chez Eddie Lamar, qui était son étrangeté et qui allait plus loin que sa beauté. Puis alors, d'autre part, il faut dire aussi que si Eddie Lamar mérite son titre d'icône, c'est certes parce qu'elle était une femme somptueuse et libérée, mais aussi parce qu'elle avait établi la distance qui convenait entre elle et les producteurs qui auraient voulu abuser physiquement de la situation. Et évidemment, ça, par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est assez intéressant puisque les producteurs étaient pourtant beaucoup plus puissants encore à l'époque de l'âge d'or d'Hollywood.
Dans le livre, j'ajoute qu'elle retranscrit des conversations qu'elle a eues avec Louis Mayer, le patron de la MGM, qui sont quand même assez éloquentes et savoureuses sur le rapport entre les patrons de studio et les comédiennes à l'époque.
Tout à fait. Alors, le cinéphile dans tout ça, qu'est-ce qu'il doit penser d'Eddie Lamar? Par exemple, il y a à charge contre elle des films comme Ziegfeld Girl, qui est justement un film de la MGM, où Eddie Lamar côtoie Judy Garland et Lana Turner. Ce film avait été à l'origine créé pour Eddie Lamar. Et puis finalement, plus le film avançait, plus la production avançait, et plus le rôle de Eddie Lamar se réduisait, parce qu'on se rendait compte qu'elle n'allait pas pouvoir porter le film sur ses épaules. Et Pandro Berman, le producteur du film, disait « Eddie n'a pas de talent, et elle n'est en aucune façon une personne importante. Pour jouer dans des films, il faut être beaucoup plus qu'une simple beauté glaciale. » Donc c'était quand même assez terrible comme constat. Pourtant, les films qui permettent de sauver Eddie Lamar existent, mais il faut bien dire qu'ils ne sont pas très connus. Quelquefois, ce sont des films assez moyens, comme par exemple l'adaptation de Tortilla Flat de Steinbeck en 1942, où Eddie Lamar dissimule son accent autrichien sous un personnage hispanique. Et là, il faut reconnaître que les seuls moments intéressants de ce film, ce sont les moments où il y a Eddie Lamar en face de John Garfield, le grand rebelle d'Hollywood. Et là, d'un seul coup, elle s'anime et ça devient très intéressant. Dans la même période, je vous conseille Souvenir, un film vraiment réussi de King Vidor, où Eddie Lamar joue l'ancien amour de jeunesse d'un bourgeois de Boston, qu'elle retrouve quelques années plus tard, et dans lequel, pour une fois, elle joue une vraie américaine, mais comme elle avait toujours son accent, les scénaristes lui avaient inventé une enfance européenne pour justifier cet accent. Donc vous voyez qu'elle n'était quand même pas super facile à utiliser pour Hollywood. Alors là, d'ailleurs, quand il y a eu ce film Souvenir, le Hollywood Reporter avait prédit que la carrière de Eddie Lamar allait vraiment décoller. Pourtant, ça ne s'est pas réalisé. Et donc, on peut dire que les meilleurs films avec Eddie Lamar sont restés ceux pour lesquels elle était prêtée à d'autres studios que la MGM, comme Casbah, qui est un bon remake de l'excellent Pépé le Moko, dans lequel Charles Boyer a pris la place de Jean Gabin, ou Angoisse, un thriller en costume tourné pour la RKO par Jacques Tourneur.
You're beautiful. That's easy to say. I know a lot of people have told you. For me, you're more than that. For 2 years I've been lost, like walking in my sleep. Suddenly I wake up, that's you. I don't know what I've been doing all that time waiting for you without knowing it. Do you know what you are to me? Paris. That's you. Paris. With you I escape. Follow me? The whole town. It's spring morning in Paris. You're lovely. You're marvelous. And you know what you remind me of? The subway. Close your eyes. Listen. Can you hear it?
That's my heart beating.
Does it go like a subway train?
Faster.
You're all silk. And you jingle when you walk, and with all that shishi, you make me think of the subway. Isn't that funny? and potato chips and coffee on the boulevard. What did you do before?
Before what?
Before the jewels.
I wanted them.
Donc, en 1945, Eddie Lamar joue le dernier film de son contrat avec la MGM, La princesse et le groom de Richard Thorpe. Son rêve de devenir la nouvelle Garbo ne s'est pas réalisé. Au milieu des actrices confirmées comme Barbara Stanwyck, Katharine Hepburn ou Bette Davis, ou de la génération suivante incarnée par Ingrid Bergman, Jean Tierney ou Lana Turner, il y avait peu de place pour cette beauté au jeu limité. Et là, elle est livrée à elle-même et elle va se lancer dans la production. Et son premier projet va être quand même assez réussi. C'est un projet très personnel, Strange Woman, qui va être signé par son compatriote viennois Edgar Ulmer, mais qui serait partiellement l'œuvre de Douglas Sirk. C'est un drame qui se déroule dans l'ambiance mystique de la Nouvelle-Angleterre au début du 19e siècle. Et là, elle joue un rôle d'ambitieuse schizophrène. Et là, il va y avoir un engagement physique de l'actrice dans cette histoire qui est très supérieur à celui qu'elle a dans ses autres films. Elle est inquiétante, elle est vénéneuse, elle est tragique, c'est probablement son meilleur rôle. Mais c'est aussi son champ du cygne, et les tentatives qu'elle effectuera en tant que productrice jusque dans les années 60 seront toutes des échecs. Alors, au milieu de ces échecs, il y a un film produit par la Paramount qui est Samson et Dalila, un péplum d'anthologie réalisé par Cécile B2000 et qui restera son dernier grand rôle.
I will hide nothing from you.
The oldest trick in the world. A silk trap. Baited with a woman.
Do you know a better bait, Samson? Men always respond.
Of all the women in Gaza, why did the Saran send you?
I asked to come.
Why?
I knew you'd yield to any other woman.
And you came here to save me?
No. I came to betray you.
By the four winds, you have courage, Delilah.
Don't overlook this. It's a gift from the Saran.
Et d'ailleurs, dans le livre, elle parle beaucoup de Cécile B2000, avec lequel elle a eu une relation assez conflictuelle sur le tournage, mais qui reste, semble-t-il, en tout cas selon elle, sa plus grande expérience de tournage, en tout cas le cinéaste qu'elle admirait le plus.
Oui, et c'est certainement l'un de ceux qu'il a le mieux utilisé, c'est incontestable. Mais bon, ce film va être un peu une exception dans une période de déclin, et d'ailleurs, après cette période, le livre d'Eddie Lamar nous la montre comme trouvant plutôt une forme de bonheur en dehors du cinéma, au bras d'un amant fauchée, plus jeune, et alors qu'elle-même n'intéresse plus personne et que sa déchéance financière est totale. Ne serait-ce que parce qu'elle est un pied de nez à ce destin tout de même un peu triste à la fin, la réhabilitation posthume d'Eddie Lamar est sympathique, mais enfin, à mes yeux, elle le sera encore plus si elle sert de point de départ au réexamen de la carrière des nombreuses actrices hollywoodiennes qui ont porté des dizaines de films grâce à une présence à l'écran et des qualités de jeu autrement plus solides.
Mais alors, vous critiquez un peu son jeu d'actrice, est-ce que c'est ce qui explique le fait que finalement très peu de grands metteurs en scène de cette époque, et pourtant ils sont nombreux, n'ont jamais fait appel à elle? C'est ce qu'il manque aussi dans sa filmographie.
Non, je suis pas d'accord, parce qu'elle a quand même tourné avec d'assez grands réalisateurs. Elle a tourné avec King Vidor, elle a tourné avec Victor Fleming, qui est quand même qui est pas peut-être un grand maître du cinéma d'auteur, mais enfin qui est quelqu'un qui savait tout à fait faire des films qui fonctionnent. Et puis, elle avait tourné aussi avec des réalisateurs très débrouillards. Par exemple, elle avait fait un film avec Joseph H. Lewis, le fameux auteur de Gun Crazy. Et Joseph H. Lewis, c'était vraiment quelqu'un qui était habitué à tirer le meilleur de tout le monde et à tirer le meilleur des acteurs, puisqu'il était habitué à faire des films fauchés. Donc, il faisait vraiment le meilleur avec ce qu'il avait. Et quand il a tourné avec Eddie Lamar, il a dit non, là, vraiment, avec Eddie Lamar, j'y arrive pas, quoi. Donc, je crois vraiment que c'était une femme qui était paradoxale parce qu'elle était intelligente, elle était magnifique, elle n'était pas très douée pour la comédie et elle ne pouvait exprimer ce don pour la comédie que dans un certain nombre de cas, et notamment les cas où on s'appuyait beaucoup, non pas sur sa beauté, encore une fois, mais sur son caractère un peu étrange, où on essayait de, en fait, où on la faisait jouer un peu aux marges de la folie, et où là, d'un seul coup, elle arrivait, il y avait une espèce de déclic qui faisait qu'à ce moment-là, elle commençait à avoir la présence qui lui faisait défaut dans d'autres circonstances.
Et puis donc, comme vous l'avez rappelé évidemment dans votre histoire du cinéma, elle ne fut pas qu'actrice, mais aussi inventrice, ce qu'elle passe totalement sous silence. C'est assez étonnant, en effet, dans cette biographie. Et elle a d'ailleurs reçu, des années après, un titre posthume, je crois, un prix pour cette invention qui en effet, est un peu l'ancêtre ou, du Wi-Fi que l'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est un livre vraiment assez truculent à lire. Hein. Vraiment, je le recommande assez cru. Elle y va franchement. Mais on apprend aussi qu'elle fut, à une époque, quand même, la star, une des stars les plus chères d'Hollywood. On la voit avec Louis B. Mayer, négocier un contrat pour un film qui s'appelait Adam sans passeport, je crois, où elle négociait 90 000 $, ce qui à l'époque était considérable. La sortie de cette biographie est bienvenue pour se replonger dans l'œuvre, certes irrégulière, on va dire, d'Eddie Lamar, comme vous venez de nous le dire. Mais en tout cas, je recommande vraiment ce livre, Ecstasy Enemy, la folle biographie d'Eddie Lamar, édité aux éditions Séguier.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.